Le thème du message que je voudrais partager ce matin, c'est le chemin de la liberté. C'est le titre que je voudrais développer. Décidément, je mets les feuilles pas au bon endroit, donc je perds mes repères. Le chemin de la vraie liberté. Imaginez un monde où chacun fait exactement ce qu'il veut, comme il veut. Imaginez ce monde-là. 10 secondes. Imaginez. Imaginons ce monde-là où chacun fait absolument tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe? Un monde merveilleux. Oui, pour certains, ça sera merveilleux, puisqu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie, et ils seront assez malins pour obtenir tout ce qu'ils veulent, et ça sera bien pour eux, ils seront toujours gagnants, et ça sera chouette pour eux. Mais ça ne sera pas très chouette pour tout le monde. Notre monde est déjà un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est un monde où la liberté est déjà quelque chose de très important. La liberté est le but de la vie. Vous avez remarqué que la plupart des guerres, je dirais même la quasi-totalité des guerres, a pour projet la recherche de la liberté. C'est toujours pour se libérer d'une oppression, d'une domination, d'une situation dans laquelle on se trouve, on fait la guerre. Les guerres d'indépendance, par exemple. Les deux grandes guerres mondiales, l'enjeu, c'était la liberté. On recherche la liberté, on veut être libre. Et même en temps de paix, même quand il n'y a pas de guerre, eh bien, l'aspiration profonde de l'être humain, moderne, c'est la liberté. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, les humains naissent égaux et libres. La liberté, c'est ça qui a poussé les révolutionnaires en France à faire la guerre. Liberté, égalité, fraternité. La question c'est, est-ce la vraie liberté? Est-ce cela la liberté? Charlie Hebdo. Voilà que nous sommes tous devenus Charlie. Tous. Du nord au Groenland là-bas, jusqu'au sud, au fin fond du sud là-bas, Afrique du Sud peut-être, et puis de l'autre côté du sud là-bas, en Amérique latine, tout à fond au fond, tout le monde est Charlie. Sur les portails de Facebook des gens, tout d'un coup, tout le monde, je suis Charlie. Qu'est-ce qui était derrière l'enjeu de Charlie? C'était l'affirmation de la liberté d'expression. On voulait dire, je suis Charlie parce que je suis contre le fait qu'on puisse réduire la liberté d'expression. Est-ce que ça, c'est la vraie liberté? Alors nous allons ouvrir notre Bible et nous allons regarder un peu quelle est la liberté présentée par le Seigneur dans sa parole. Galates chapitre 5, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Galates chapitre 5, le verset 1 à 6, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore, une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par amour. Ce matin, je voudrais poursuivre simplement deux objectifs. Premier objectif, répondre à la question « Comment cheminer dans cette liberté ?» Deuxième question, « Comment vivre cette liberté ?» Ce texte commence par un fait qu'on affirme, que l'apôtre Paul affirme ici. Ce texte commence par évoquer le fait que Jésus nous a rendu la liberté. Nous avons trouvé une autre liberté, la liberté que Jésus nous donne. Et l'apôtre exhorte les chrétiens de Galates en leur disant « Conservez-la, faites tout pour ne pas tomber à nouveau dans l'esclavage. » Donc la liberté ici se présente comme un travail d'affranchissement, un travail où on sort de l'esclavage, un travail d'affranchissement et qui est réalisé par le Seigneur Jésus. Alors de quoi nous a-t-il affranchi? Nous le savons, il nous a affranchi du péché. Il nous a sorti de l'esclavage du péché. Exactement la même image que celle avec le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, de l'esclavage du physique en Égypte. Il nous a affranchi du péché. Il nous a sorti de l'esclavage et de la prison. Nous étions enfermés à cause du péché. Mais en reconnaissant notre état de pécheur, en le confessant et en demandant pardon à Dieu pour nos péchés et en invitant Jésus à venir dans notre vie, Jésus nous délivre du péché et nous rend la liberté. Cette liberté, c'est la vraie liberté. Vous voulez que je vous le montre? Jean chapitre 8, versets 34 et 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Et nous étions universellement tous liés au péché. Et nous étions donc esclaves du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. La vraie liberté, c'est celle que Jésus donne. C'est celle où Jésus donne en nous affranchissant du péché. La vraie liberté, c'est celle qui nous donne la possibilité de nous épanouir en poursuivant le but pour lequel Dieu nous a créés. Votre vie n'est pas une vie du hasard. Peu importe comment vous êtes né. Vous pouvez être né bien, vous pouvez être né avec des parents chouettes, vous pouvez être avec des parents pas du tout chouettes, vous pouvez même pas connaître vos parents, vous pouvez même avoir des origines tout à fait bizarres. Mais l'existence, votre existence sur la terre, peu importe, même les enfants qui sont issus des dames qui ont été violées, etc. Dès le moment où un être humain est sur la terre, il est là pour accomplir un but pour lequel Dieu l'a créé. Il est là pour s'épanouir avec ce pourquoi Dieu l'a créé. Regardez, commencement à la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée la terre, il crée les animaux, et dit à l'homme, tu vois ça, c'est pour toi. Tu peux manger de l'herbe là, et ça c'est ton monde. Tu vas pouvoir travailler là, mettre de l'ordre. Je suis toujours frappé par le mot, je vous l'ai déjà dit, mais je répète encore. Je suis toujours frappé par le mot jardin. Il n'a pas parlé de forêt. Il n'a pas dit la forêt. Il a dit le jardin. Le jardin sous-entend quelque chose qui est structuré, ordonné, organisé. C'était ça. On avait un projet. Ce pourquoi on devait exister, le but pour lequel on était là sur la terre, c'était de faire de ce monde, de notre univers, un jardin. D'y mettre de l'ordre, d'y mettre du sens, d'y être à l'aise comme les gérants, en phase avec le propriétaire. L'homme a choisi malheureusement de suivre le conseil du diable. L'homme a désobéi. Non, le diable n'est pas 100% responsable, nous sommes responsables. Lui, il a poussé, mais nous avons posé le pas. Et c'est nous les responsables. Nous sommes là pour faire ce pourquoi nous avons été destinés. On retrouve, avec la liberté en Christ, la vraie liberté, on retrouve le sens de notre vie. On est réconcilié avec Dieu, mais on est aussi réconcilié avec nous-mêmes. Regardez Abraham. Moi, je suis toujours frappé parce que une fois, j'ai vu une interprétation du texte où il dit « Va, quitte ton père et ta mère pour aller dans le pays que je t'indiquerai ». J'étais frappé par une interprétation rabbinique, un rabbin qui disait en hébreu, quand Dieu lui dit « Va, quitte ton père et ta mère », ça se dit exactement, ça peut se lire exactement « Va vers toi-même ».« Va vers le but pour lequel je t'ai créé et qui va t'épanouir et qui te permettra d'être véritablement toi-même, de te retrouver avec toi-même. » Parce que la vraie liberté en Christ nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes, parce que nous sommes des êtres déchirés, nous sommes des êtres transpercés, avec une habitation du péché et en même temps la loi de Dieu. Et nous sommes en combat, en guerre permanente à l'intérieur de nous. La vraie liberté nous permet de pouvoir être affranchis de ça. Nous nous retrouvons avec nous-mêmes aussi. On n'est pas seulement réconcilié avec Dieu, on n'est pas seulement réconcilié avec les hommes, on est aussi réconcilié avec nous-mêmes. La vraie liberté, c'est la liberté que l'on trouve en Jésus-Christ. Liberté qui nous a été chèrement acquise, puisque Jésus a payé le prix à la croix en mourant à cause de nos péchés. Première question, j'espère que ce matin, je vous ferai le cadeau de ne pas être long, mais je ne sais pas. Première question, quel est donc ce chemin? Comment cheminer dans cette liberté? C'est le chemin de la liberté, ça consiste en quoi? Et j'aimerais peut-être, c'est ce qui m'a inspiré un peu ce message d'aujourd'hui, c'est en lien avec ce que j'avais dit la fois passée, donc le dimanche passé, cette espèce de pouvoir intérieur de nous qui nous donne d'être vraiment boosté pour le Seigneur. C'est de l'intérieur de nous que la révolution peut se faire. C'est dans le cœur, lorsqu'un cœur dit « Maintenant, Dieu devient ma passion. Maintenant, je veux que je vive ma vie pour Dieu. » C'est de l'intérieur que les choses bougent. C'est un peu ça. C'est dans la continuité de cette idée-là. Mais sa question, comment cheminer dans la vraie liberté? Comment? Poursuivons un peu dans le texte. Galates chapitre 5, nous revenons encore sur notre texte. Vous allez voir que les versets suivants... Hein? Galates, tu reviens sur ton texte. Oui, au début. Oui. Ah, je fais du boulot, hein? Je te donne du boulot. Hein? Désolé. Hein? Regardez ce qu'il dit. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. L'apôtre semble nous dire que la vraie liberté, elle peut être perdue. L'esclavage consiste à quoi? C'est un fardeau, c'est un joug. Un joug, c'est un fardeau, c'est un poids que l'on met. Comme sur la bête. Eh bien, pour un animal, quand on lui met le joug, c'est pour que l'animal puisse avancer, et comme ça, la charrue peut labourer la terre, mais le joug fait que l'animal ne peut pas faire tout ce qu'il veut. L'animal ne peut pas dire, ok, les gars, moi, je vais à gauche un peu là. Non! Le joug lui pèse tellement qu'il n'a pas d'autre choix que d'avancer. Et c'est un peu ça, le péché. Le péché, c'est un poids qui vient sur nous pour nous imposer de faire, non pas ce que nous voulons, mais ce que le péché veut. retourner dans le joug du péché, c'est cela. C'est revenir sur le poids qui va nous peser à nouveau. La liberté, mes amis, elle peut être perdue. Je peux perdre ma liberté. Je peux à nouveau me retrouver dans les méandres, dans les difficultés, même quand je suis chrétien. Je ne parle pas de perdre le salut, hein. Comprenez-moi bien, hein. Je parle de perdre la liberté, c'est-à-dire ma capacité à agir, à vivre, à m'épanouir, ma faculté à pouvoir faire ce que je peux faire, ce que je veux faire. Je peux, à un moment donné, perdre ma liberté, être lié à cause d'un péché que j'ai laissé se développer dans ma vie. Il y a des chrétiens qui se laissent aller. Les mauvaises compagnies peuvent être une source où tu te lies et tu perds ta liberté de chrétien. Tu commences à raser les murs. Quand on parle de Dieu, tu essaies d'éviter les gens qui parlent de Dieu. Vous savez, moi j'étais jeune, hein. À un moment donné, parce que je n'ai pas été un jeune parfait, je l'avoue toujours, à un moment donné, j'étais très très turbulent, même si j'étais chrétien, et je n'avais pas toujours des choses que je faisais qui étaient bien. Eh bien, quand je voyais à cette époque-là des gens en train d'évangéliser, vous croyez que je m'approchais d'eux? Non. J'essayais de les éviter. Pourquoi? Parce que j'avais perdu ma liberté. Je ne pouvais plus le faire parce que, simplement, bon, j'étais pas bien. J'étais lié. J'étais en train de retourner dans l'esclavage du péché. Mes amis, ouvrons l'œil. Ouvrons l'œil et le bon. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Voilà un principe chrétien. Tout m'est permis. Ha ha! Est-ce que le chrétien peut faire tout ce qu'il veut? Oui! Oh, ça vous étonne, hein? Oui! Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais, ha ha, la restriction, mais, tout m'est permis, mais, est-ce que c'est utile? Donc, quand moi, j'exerce ma liberté, je veux faire des choses, je me pose la question, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment utile pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est bien pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça aide à quelque chose pour Dieu? Alors si ma réponse est non, alors je ne le fais pas. Vous comprenez? L'autre question, est-ce que ce que je fais va-t-il me remettre à nouveau dans l'esclavage du péché? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir. Asservir, ça veut dire devenir esclave. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me remettrai pas encore sous le joug de l'esclavage. Est-ce que ce que je fais me rend-il à nouveau esclave? Voyez-vous? Pourtant, tout m'est permis. Alors, mes amis, ce matin, peut-être que faisons attention à la façon dont nous profitons de notre liberté. Notre liberté, elle est là pour nous permettre de nous épanouir en Christ. Avec Jésus, pas sans Jésus, pas sans Dieu. Dieu ne m'a pas délivré de mes péchés pour que je me mette à vivre n'importe comment. Il m'a délivré de mes péchés pour que commence pour moi une nouvelle vie dans laquelle Dieu est glorifié. Qu'est-ce qui se passe si je retombe dans le péché? Excuse-moi, Jaco, je te remets chaque fois dans le texte, là. C'est du bout. Ah, il est prêt, il est prêt. Maintenant, il a compris, il est prêt. Qu'est-ce qui se passe si je retombe dans le péché? Qu'est-ce qui se passe? Verset 2. Si je retombe dans le péché, si je retombe dans l'esclavage, Christ ne me sert de rien. Ici, en l'occurrence, je vais peut-être juste préciser ici le contexte, c'est que l'apôtre Paul est en confrontation avec ce qu'on appelle les judaïsants qui essayent de pousser les chrétiens qui ont déjà cru et qui sont juifs et qui essaient de leur dire, écoutez, vous êtes chrétiens, mais vous devez savoir que en tant que juifs, vous devez toujours continuer à respecter les rites, les coutumes, les ordonnances divines du judaïsme. Et donc,
Alors voilà.
Une des ordonnances, c'est la circoncision. Et donc, ils leur disent, vous êtes devenus chrétiens, très bien, tant pis pour vous, mais faites-vous quand même encore circoncire. Et les autres, et Paul dit, attention, si vous faites ça, vous respectez donc une loi du judaïsme, alors vous devez respecter tout. C'est ça le verset 3. Vous devez alors tout respecter. Vous devez respecter tout le judaïsme. Autrement dit, vous rentrez dans le judaïsme. Et si vous faites ça, première conséquence, Christ ne sert à rien. Verset 2, Christ ne vous servira à rien. Deuxième conséquence, verset 4, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. En fait, ces deux conséquences me permettent de répondre à la première question. Cette question que j'ai posée, comment cheminer? Quel est le chemin, en quelque sorte, de la vraie liberté? Comment cheminer dans la vraie liberté? Le lien entre les deux choses, l'œuvre du Christ qui devient inutile, et de l'autre côté, la déchéance de la grâce, le lien, c'est que tout est en rapport avec la grâce de Dieu. Le chemin de la vraie liberté passe par la grâce de Dieu. La vraie liberté est possible si nous comprenons c'est que la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus à la croix, le salut qu'il nous offre, qu'il offre aux pécheurs, c'est l'expression de la grâce. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par la grâce. C'est pas toi grâce, hein? Quoique ça pourrait être toi aussi, hein? Mais tu portes un nom quand même lourd de signification, hein. C'est par la grâce, mes amis. Imaginez un prisonnier que l'on sort de la prison sans jugement. On lui dit, monsieur, vous sortez, vous êtes libre. Sortez. Mais j'ai tué. Mais j'ai mon procès qui vient le 25. Mais je suis coupable, je le reconnais. Non, monsieur, sortez. Vous sortez. C'est fini, vous êtes libre. Et imaginez-vous un peu, qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? On lui dit, écoutez, vous êtes libre, seulement ne refaites plus vos bêtises. Qu'est-ce qui se passe chez cet homme-là? Si cet homme-là réalise vraiment ce qui vient de lui être accordé, qu'est-ce qui va se passer? Deux attitudes. Il sera reconnaissant. Il sera reconnaissant à l'égard de celui qui lui a permis de sortir de cette façon-là. Et puis, il va considérer ça comme une chance, une deuxième chance qu'on lui donne, afin de faire le bien, afin de bien agir. C'est une seconde chance. C'est une chance qu'il ne peut plus rater, qu'il doit saisir absolument et profiter de cela. Il va essayer de bien vivre, de bien repartir à nouveau dans la vie. Réaliser que c'est par la grâce que nous sommes libres, c'est savoir que cela vient de Dieu et que nous avons à saisir cette liberté pour vivre pleinement la vie avec Christ. J'aimerais relire juste le verset 4 dans ma version. Merci Jacob, mais je vais quand même regarder dans ma version de Galates ici, parce que le copain Kuhn ici, il fait quand même des choses qui sont un peu différentes là, et ça peut parler aussi pour aujourd'hui. Je relis le même texte ici, mais dans la version de la parole vivante d'Alfred Kuhn. C'est juste une façon de le présenter différemment. Mais si c'est la loi qui vous demande de vous conduire, mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec Christ. Et si vous voulez gagner l'approbation divine par vos efforts et vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec Christ, vous quittez le domaine de la grâce de Dieu. C'est un peu ça. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Le chemin de la vraie liberté passe par la grâce de Dieu. Mes amis, j'aimerais peut-être que nous tirons une conséquence de cela. Qu'est-ce que cela entraîne pour moi aujourd'hui de savoir que le chemin de la vraie liberté passe par la grâce de Dieu? Ça a comme conséquence pour moi de m'apprendre que si je suis libre aujourd'hui, c'est-à-dire si je peux faire absolument tout ce que je veux aujourd'hui, bien sûr en respectant, en réfléchissant quand même, parce que je ne suis pas bête, je ne dois pas non plus dire je fais tout ce que je veux comme je veux sans réfléchir, je dois toujours soumettre évidemment mes choix à l'exigence de la parole de Dieu. Je dois toujours soumettre mes choix à ce que Dieu veut. Ma question c'est toujours, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va me faire retomber dans l'esclavage? Ça, ça doit être ma question quand j'utilise ma liberté. Mais cette liberté-là, pour pouvoir la vivre pleinement, je dois comprendre que c'est le fruit de la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur que je n'ai pas méritée. Quelque chose qui ne m'a pas été accordé parce que je suis grand, beau, petit, fort, etc. Ça m'a été accordé simplement parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. C'est un cadeau de Dieu. Ça me vient de Dieu, cette liberté. Donc je ne peux pas la vivre comme si c'était moi le maître de mon existence. Je dois la vivre comme étant celle qui vient de Dieu. Et donc, cette liberté, elle doit être vécue avec le Seigneur. Pour le Seigneur. Comprenez? Deuxième question. J'essaie de gagner du temps. Deuxième question. Comment vivre en fait ce texte? Comment vivre en fait cette vraie liberté? Je vais introduire ici une dimension que je soumets simplement à votre réflexion. Comment est-ce que je peux vraiment profiter de ma vraie liberté d'après ce texte? Nous allons regarder le verset 5 et 6. Attends, je vais le regarder quand même chez Alfred Kuhn, hein, comme ça. Il m'épate cet homme, il m'épate aujourd'hui, c'est incroyable. Il est toujours là, à la pointe, à l'affût, c'est incroyable. Jaco, chapeau, hein. Galates chapitre 5, nous allons lire donc le verset 5 et 6 dans la version de Kuhn aussi. Pour nous, fortifiés par l'Esprit, c'est de la foi que nous espérons recevoir la justice. Oui, une parfaite justification nous sera accordée parce que nous avons placé notre confiance en Christ. C'est là notre espérance. Et l'Esprit la confirme en nous. Car, verset 6, dans la communion avec Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif, ni de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification, seul compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et s'est traduit par des actes. Voyez-vous, pour que je puisse profiter de ma vraie liberté, il faut que je sois prêt, à changer de maître. Changer de maître. Avant, nous étions nos propres maîtres. C'est moi qui décidais de ma vie, qui décidais de ce que je dois faire, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de quelles sont les priorités de ma vie, c'était moi. Ok? L'homme livré à lui-même, c'est ce qu'il fait. Le pécheur, c'est ce qu'il fait. C'est lui qui décide ses valeurs. Il est pour ou contre l'homosexualité, c'est son point de vue à lui. Il soumet ça à personne. Il pense comme il veut, il peut même retourner sa veste s'il le veut. Il peut aujourd'hui penser une chose et puis demain le contraire. Il est son propre maître. En réalité, l'homme pécheur livré à lui-même, c'est pas vrai. Il croit être son propre maître. Mais il est dominé par la chair. Et la chair est sous le contrôle du diable. Il n'est pas donc son maître. C'est pourquoi il est tout le temps en bagarre avec lui-même. Mais maintenant libre, maintenant que nous sommes libérés en Christ, nous changeons de maître. Nous changeons de conducteur. Nous changeons de pilote dans notre bateau ou, je sais pas moi, dans notre avion. Nous changeons de maître. Maintenant, le maître, c'est le Saint-Esprit. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes invités à laisser le Saint-Esprit guider, diriger nos vies afin que nous puissions vivre la vraie liberté. C'est ce que ce texte dit. Il revient plusieurs fois avec cet esprit. Nous attendons par l'esprit. Et puis, il va poursuivre dans ça. Dans votre version à vous, il y a l'Esprit une seule fois, mais dans d'autres versions, on voit que le Saint-Esprit est acteur pour faire tout ce qui se passe là. Le Saint-Esprit, lorsque je le laisse diriger ma vie, alors, effectivement, il me rend vraiment libre. Sauvés, nous devenons l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que le texte de Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 6, voilà, je cherchais. 1 Corinthiens 6 qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes l'habitation de l'Esprit. Le Seigneur habite en nous. Il va nous accompagner dans notre démarche de foi. Ici, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes convaincus, que nous sommes conduits au salut. C'est lui qui nous convainc du salut. C'est lui qui nous convainc de la justice. C'est lui qui nous emmène à la justification. C'est lui qui nous amène par la suite à glorifier Jésus dans notre vie. Jésus dit, je vous enverrai un consolateur. Il vous enseignera sur moi. On apprend à connaître Jésus par le Saint-Esprit. Alors, c'est juste une réflexion que je voulais introduire. Réfléchissons un peu. Quelle est la place que je laisse dans ma vie pour l'action du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit pour moi? Je ne suis pas en train de parler de manifestations, des trucs où vous devez commencer à sauter, à crier. Je ne parle pas de ça. Je parle simplement de qui est le capitaine de votre vie, à l'intérieur de votre cœur, qui dirige votre vie. Et quand vous dites, oui, c'est Dieu, c'est Jésus, oui, comment le fait-il? Parce que je peux dire que c'est Jésus qui dirige ma vie. Ouais, et c'est vrai en plus. Mais il le fait comment? Il le fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent dans ma vie. C'est celui qui, devant qui je dois soumettre mes choix, mes décisions, devant qui je dois m'inquiéter pour mon sort. Et lorsque j'apprends à découvrir que je ne suis pas le commandant de ma vie, que je ne suis pas le maître de ma vie, que Dieu est le maître de ma vie, que c'est lui qui a influencé mon existence, alors je vis différemment. Je vois différemment. Je réfléchis différemment. Et je laisse le Saint-Esprit transformer ma vie. On a besoin d'être renouvelé spirituellement, n'est-ce pas? Paul qui recommande, qui dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. J'ai besoin d'être transformé. Et je ne peux pas être transformé tout seul. Encore moins par mes propres efforts. Mes efforts ne me conduiront qu'à l'échec. Mais si je veux être transformé, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3. Vous allez voir qu'il y a un lien entre l'esprit et la liberté. C'est deux. J'ai mis deux là-bas. Oui, parce qu'ici j'ai mis un, tu vois, mais c'est deux en réalité. Bravo, Jaco. Je crois que je vais l'engager pour m'accompagner partout où je vais prêcher. Hein. Regardez. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyez-vous, il y a un lien extraordinaire. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous donne un devoir. Poursuivez la lecture de Galates. Vous allez voir un incroyable lien entre la liberté, la vraie liberté, et l'action du Saint-Esprit. Si je veux être vraiment libre, mes amis, il faut que je puisse être en connexion avec le Saint-Esprit. Il faut que je demande au Seigneur de m'aider à être à l'écoute. Il faut que je demande au Seigneur de m'aider à vivre non plus comme si j'étais le commandant de ma vie, mais comme si un autre commandait ma vie, un autre de qui j'ai des comptes à rendre, un autre que je dois consulter, un autre devant lequel je dois déposer mes armes. Toutes les expressions de mon pouvoir, tout ce qui relève de ce que je suis comme autorité, je le dépose devant lui. Je dis, Seigneur, c'est toi maintenant le chef. C'est toi le maître. Alors, mon caractère va changer. Mes mauvaises habitudes vont être régénérées. Parce que souvent, dans nos défauts, nous nous battons nous-mêmes. Je cherche par tous les moyens à m'en sortir par mes propres moyens. Et je n'y arrive pas. J'étais colérique, je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas parce que j'ai décidé un jour, je ne deviens plus colérique, c'est terminé. Maintenant, la colère et moi, on ne s'énerve plus. Non ! Rassurez-vous, je l'ai fait. J'ai essayé tout ce qu'on peut essayer. Même de boire du thé qui calme. Ça n'a rien changé. Il y avait des trucs, il y avait des mots. Quand on disait certains mots, tac ! Alors là, c'était, ça montait, ça ne s'arrêtait plus. C'était comme ça. Si il a été possible pour moi que la colère s'en aille de moi et que je puisse avoir un caractère que vous me connaissez aujourd'hui, où je rigole de tout et de rien, eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, lors d'une prière, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre, cette colère est à la source de beaucoup de problèmes autour de moi. Je fais des dégâts incroyables. Quand je devais me bagarrer, je massacrais les gens, c'est incroyable, quoi. C'est pas comme ça qu'on doit vivre, Seigneur. Je peux plus, j'en peux plus. J'ai supplié Dieu, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas contrôle à ça. Je te supplie, s'il te plaît, viens, Seigneur, change ça. Change ça. J'ai prié, mais ça me prenait tellement fort que j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce que... Mais, eh bien, vous savez quoi? Je suis rentré chez moi, après la prière. Ma sœur, elle m'a embêté parce que ma sœur, elle aimait bien m'embêter. Je ne sais pas pourquoi, elle aimait bien recevoir des coups de ma part. Je ne sais pas pourquoi. Et elle m'a embêté et je n'ai pas réagi. Je dis... Elle a dit les mots qui me poussent à la colère et je n'ai pas réagi. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, oh Seigneur, c'est vraiment toi qui agis. Je sais que c'est extraordinaire quoi, je ne m'énerve même pas. Je suis ressorti, elle m'a encore embêté et je ne me suis pas fâché. Putain. Et puis, une semaine après, je ne m'étais pas encore énervé. Je dis à ma mère, c'est bizarre. Je ne m'énerve plus. Il dit, oui, tu es devenu très doux. Mes amis, c'est ça que je voulais partager ce matin. Deux choses. Notre vraie liberté, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu et vivons cette liberté avec le Seigneur. Ne faisons pas les choix n'importe comment. Deuxième chose, notre vraie liberté ne peut véritablement se déployer que si nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Si nous nous considérons comme, non pas les maîtres de nos vies, mais comme étant des gens qui travaillent avec un chef au-dessus d'eux. Un chef qui décide et qui montre le système des choix, le système des valeurs, ce qu'il faut faire. Vous allez voir, mes amis, si nous faisons ça, les choses bougent dans nos vies et cette étincelle au-dedans de nous va nous booster pour être efficace pour l'œuvre de Dieu. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Vous êtes ces ouvriers aujourd'hui. On ne peut pas regarder et dire, ah, nous on va prier, on va demander qu'ils viennent de l'extérieur. Non, nous sommes les ouvriers. Mais nous avons besoin d'avoir du punch, d'être passionnés pour Dieu, de ressentir de la pitié pour les âmes perdues, de ressentir de la colère quand on parle du mal de notre Dieu, d'avoir des réponses quand les gens sont en train de dire n'importe quoi sur notre foi, d'être capable de pouvoir vivre cette foi en donnant envie aux gens de nous suivre, d'être des témoins et d'être même des gens qui, à travers notre vie, honoreront le Seigneur. Hier, un monsieur me disait, à Louvain-la-Neuve, il me disait que j'étais un des seuls jeunes qui était admis dans les maisons des Africains, les Africains les plus âgés de Louvain-la-Neuve à l'époque. Il disait que j'étais un des rares jeunes à être admis dans les familles. Et moi, j'ai dit, mais oui, c'est marrant, j'avais constaté ça. Et il me dit, tu sais pourquoi? C'est parce que tu étais sérieux. On pouvait voir que tu es un garçon sérieux, on peut te faire confiance. Eh bien, imaginez que si nous les chrétiens, on peut dire ça de nous. On peut dire ça de nous dans notre vie de tous les jours. Vous êtes des gars sérieux, des gens sur qui on peut compter, des gens dont le modèle de vie donne envie. Vous imaginez? Matière à réflexion. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour et pour le fait que tu nous entraînes dans cette merveilleuse aventure avec toi. Nous ne sommes pas là simplement comme des bénéficiaires de bonnes choses. Nous sommes là aussi pour travailler pour toi. Notre liberté, elle sert aussi à te glorifier dans nos vies, à témoigner pour toi, à être là aussi pour toi, à manifester notre reconnaissance. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans cette liberté. Aide-nous à découvrir la profondeur de la grâce afin de vivre de cette grâce. Aide-nous à découvrir, Seigneur, l'œuvre de l'Esprit dans nos vies afin de pouvoir nous laisser patronner par lui et qu'ainsi, lui puisse nous guider, nous diriger et rendre nos vies conformes à ce que toi tu veux, Seigneur. Fais cela pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.